J'aimerais intituler la méditation de ce matin « L'échec et la grâce ». Nous ferons un certain nombre de lectures tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Une première lecture que je vous propose dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 17. Alors nous ferons un certain nombre d'allers-retours, nous passerons de l'Ancien Testament au Nouveau pour repartir dans l'Ancien, etc. plusieurs reprises. 2 Samuel chapitre 17 au verset 1. Ahitophel dit à Absalom, « Laisse-moi choisir 12 000 hommes, je me lèverai et je poursuivrai David cette nuit même. J'arriverai sur lui pendant qu'il est fatigué et que ses mains sont affaiblies. Je mettrai le trouble chez lui et tout le peuple qui est avec lui s'enfuira. Je frapperai le roi seul. Ainsi je ramènerai à toi tout le peuple. Le retour de tous dépend en effet de l'homme à qui tu en veux et tout le peuple sera en paix. » Cette parole parut convenir à Absalom et à tous les anciens d'Israël. Cependant, Absalom dit, « Appelle donc encore Hushaï l'Archiéen. Nous entendrons aussi ce qu'il dira. » Verset 14 du même chapitre. Absalom et tous les gens d'Israël dirent, « Le conseil de Hushaï l'Archiéen vaut mieux que le conseil d'Ahitophel. » Or, l'Éternel avait résolu de faire échec au bon conseil d'Ahitophel. Ainsi, l'Éternel amènerait le malheur sur Absalom. Au verset 23, Ahitophel, voyant que son conseil n'était pas exécuté, sella son âne et partit pour s'en aller chez lui dans sa ville. Il donna ses ordres à sa maison et il s'étrangla. C'est ainsi qu'il mourut et on l'ensevelit dans la tombe de son père. Sombre échec pour Ahitophel, conseiller perspicace mais déconsidéré d'Absalom. Lui qui fut l'éminent et écouté conseiller du roi David, qui décida d'abandonner son maître pour soutenir Absalom, le fils rebelle de David, discerne bien, lorsque l'on n'écoute pas ce dernier conseil, discerne bien que la partie est d'ores et déjà perdue. Il sait qu'Absalom va perdre face à David, il sait que son propre sort s'est joué et que lui-même a perdu. À quoi ont servi ses talents, sa science des choses, de la politique, sa science des hommes, ses richesses? Il semble qu'Ahitophel n'ait jamais vraiment accordé d'attention à autre chose qu'à lui-même, ce qui le touchait, ce qui lui importait personnellement, son métier, sa carrière, la réussite, l'argent, le pouvoir, sa famille peut-être, peu ou pas de place pour autre chose. Dieu, l'affection, l'amitié, la fidélité, ce n'est pas ce qui le motive. Un homme ambitieux, volontaire, efficace, lucide. Un homme habitué au succès, aux éloges, à une écoute attentive et respectueuse. Mais qui un jour se trompe et rencontre l'échec. Échec de sa décision de passer de David à Absalom, mais plus gravement, échec de sa vie. Lui à qui tout a réussi jusque-là rencontre brusquement l'échec, un échec imprévu, mais un échec tel qu'il ne voit d'autre issue que la mort, une mort qu'il se donne à lui-même dans la désespérance la plus totale. Je lisais ces jours-ci des propos d'Alexandre Vinet qui disait « tout mondain », expression un peu démodée peut-être, mais « tout mondain, tout dans sa vie » court le risque du suicide s'il n'a rien d'autre que sa propre vie et pas de Dieu. Il arrive à tout homme, un jour ou l'autre, de rencontrer l'échec dans sa vie. Des échecs de gravité variable, mais qu'il peut être difficile de surmonter, même si, heureusement, le suicide n'est pas la solution adoptée alors par le plus grand nombre. Échec dans un examen, échec dans le travail, perte de son emploi, chômage, échec dans la vie affective, celle que j'aimais, que j'avais choisie dans mon cœur, me préfère un autre, celui que j'aimais m'abandonne, mon enfant se révolte contre moi, tout semble échec dans sa vie, qu'ai-je fait pour rater ainsi son éducation? Et que me reste-t-il si la maladie vient aussi me toucher? elle qui soit va me faire mourir, soit me contraindre d'abandonner tout ce qui, jusque-là, était ma vie, mon travail, le sport, les sorties, les amis. Ne vaudrait-il pas mieux mourir en effet? Ou bien encore, c'est la vieillesse. La vieillesse est là. À quoi bon mes réussites, mes succès, maintenant que je suis vieux? Que ferais-je de mon argent, de mes comptes, de mes trésors, de mes diplômes? Dérision. Toute vie qui s'achève n'est-elle pas forcément une vie qui s'achève dans l'échec, si c'est une vie qui a été vécue sans Dieu? Oui, toute vie ne se termine-t-elle pas alors par une forme de naufrage, s'il n'y a que la vie, que cette vie ne se terminera-t-elle pas par un échec? Je propose une autre lecture, cette fois-ci, dans le premier livre de Samuel, au chapitre 31, verset 1. Premier livre de Samuel, chapitre 31. Les Philistins livraient bataille à Israël. Les hommes d'Israël s'enfuirent devant les Philistins et tombèrent blessés à mort sur la montagne de Gilboa. Les Philistins serrèrent de près Saül et ses fils. Ils tuèrent Jonathan, Abinadab et Malkishua, fils de Saül. Le poids du combat porta sur Saül. Les archers le découvrirent et il trembla fort devant eux. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, « Tire ton épée et transperce-moi de peur que ces incirconcis ne viennent me transpercer et me faire subir leur outrage. » Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi d'une grande crainte. Alors Saül prit l'épée et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut avec lui. Ainsi moururent en même temps, dans cette journée, Saül et ses trois fils, celui qui portait ses armes et tous ses hommes. Terrible et sombre échec de la mort de Saül. Saül, ce beau jeune homme, modeste mais vaillant, sur qui est tombée cette chose totalement imprévue, devenir roi d'Israël. Saül qui n'a pas su exercer son pouvoir, faire du bien à son peuple, suivre les ordres du Seigneur Dieu, que sa tâche a écrasé, lui qui s'est senti à la fois trop incapable pour sa mission et trop orgueilleux en même temps. Saül, pourtant aimé de Dieu, va d'échec en échec, sans tirer enseignement de ses échecs, sans se repentir de ses fautes, sans se corriger. Saül donc va mourir en perdant tout. Ses fils sont tués au combat, il voit la défaite de son armée, lui-même est encerclé, certain d'être horriblement exécuté par les Philistins. Il se donne la mort et sa dépouille, dépouille d'un roi, est ignominieusement traité par les ennemis d'Israël. Quel échec! Quel dramatique échec! Hélas, combien d'hommes et de femmes qui ont connu quelque chose de Dieu, qui ont reçu beaucoup dans leur vie, et est-ce par d'autres que Dieu que l'on reçoit jamais de bonnes choses, gâchent ce qu'il aurait donné et qui aurait dû faire leur bonheur. Combien de choses bonnes, excellentes même, nous sont données, que nous utilisons mal, que nous négligeons, que nous méprisons parfois dans notre ignorance et notre folie, des choses que nous pervertissons parfois. Que faisons-nous de la santé que Dieu nous donne, de nos qualités physiques, intellectuelles, morales, de notre corps si merveilleusement créé par Dieu? Vivons-nous sainement à la gloire de Dieu ou cherchons-nous à nous goinfrer, à connaître toutes sortes de plaisirs malsains, ou laissons-nous l'intelligence que Dieu nous a donnée tomber en friche, ne la nourrissant que de choses de pauvre qualité, voire de choses perverses, dans des intérêts très éloignés de Dieu? Que faisons-nous de la vocation minimale que Dieu réserve pour chaque homme? Accomplissons-nous ce service que Dieu attend de l'homme? Les talents qui nous ont été donnés, les exploitons-nous pour le bien? Ou les avons-nous plutôt enfouis au profond de nos cœurs, de peur qu'ils ne viennent se rappeler à notre bon souvenir? Hélas, à côté de quoi passons-nous parfois? Souvent. Peut-être pas à côté d'un ministère d'évangéliste dans un pays lointain, mais peut-être, par exemple, à côté de ce ministère d'évangélistes de nos voisins et de nos amis. Peut-être ne sommes-nous pas appelés à devenir pasteurs ou évangélistes. Peut-être simplement sommes-nous appelés à devenir un comptable fidèle ou un plombier honorable ou une mère de famille à la gloire de Dieu. Un vraiment bon citoyen, c'est peut-être là notre vocation toute simple. Un bon père de famille, un bon employé, un bon membre d'église. Qui sait si cela, qui est si simple, n'est pas un terrain dans lequel peut s'exercer la spécificité d'une vie chrétienne à la gloire de Dieu et dans le service des autres. L'échec que nous vivons parfois, moins dramatiquement dans ses apparences que celui de Saül sans doute, n'est-il pas souvent le fruit de notre éloignement par rapport à notre vocation d'enfant de Dieu? Et nos échecs sont hélas parfois bien sombres eux aussi. Faisons une lecture maintenant dans le livre des Actes. Livre des Actes au chapitre 9, à partir du verset 1, passage bien connu. Acte 9. Cependant, Saul, qui respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il s'y trouvait quelques-uns, hommes ou femmes, qui suivent cette voie, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tout tremblant et stupéfait, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Alors le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et l'on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui voyageaient avec lui s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il fut 3 jours sans voir et ne mangea ni ne but. Saul de Tarse, homme religieux, juste à ses yeux, observateur de la loi, persécuteur de ceux qu'il considère comme des hérétiques et des malfaiteurs, rencontre un jour, sur ce chemin de Damas, celui-là même qu'il persécute en persécutant l'Église Christ, le Seigneur. Et Saul ne peut alors que s'effondrer à terre. Qui es-tu, Seigneur ? Tout s'écroule. Rien ne tient de ce qui était la vie de Saul jusque-là. Sa propre justice, son orgueil, ses projets, ses convictions, tout est plus qu'ébranlé, tout est anéanti. Ce sur quoi il a construit sa vie n'était donc pas plus solide, ne pouvait résister à la rencontre avec le Dieu véritable. Quelle chose étonnante, mais quelle chose terrible. Ainsi je me suis trompé. Jusqu'à ce jour, ce que je croyais agréable à Dieu lui était horreur. Ce dont je me targuais n'avait aucune valeur. Que me reste-t-il ? Rien. Je suis là, aveugle, dépendant, perdu. Tout est échec dans ma vie. Voilà ce que Saul pouvait se dire sur ce chemin où il rencontra son Seigneur et dut reconnaître son échec. De manière plus ou moins brutale, tout chrétien a connu pareille expérience. Devoir admettre l'échec de sa vie, l'inanité de ses efforts, son péché, sa révolte. Tout homme, toute femme devant Dieu, un jour doit ainsi plier le genou, s'effondrer et dire ces mots « Seigneur, j'ai échoué. Devant toi, j'ai péché. J'ai ignoré ta vraie loi. Je ne mérite que la mort. Seigneur, je n'ai rien à mettre devant toi, sinon ma repentance, ma dépendance, mon espérance de ta grâce. » Il n'est pas de chrétien qui n'ait été, dans le secret de sa relation avec Dieu, obligé de s'avouer pécheur, raté, désespéré, car nous avons tous raté nos vies, c'est-à-dire ce que Dieu attendait de nous. Les plus brillants d'entre nous, les plus sages, les plus glorieux, s'il en existe, ont dû s'écrouler devant le Seigneur Père. J'ai échoué. Et tous n'ont pu dire, comme le fils prodigue de la parabole, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, d'être appelé ta fille. De cette heure, de ces jours, de cette longue période pour certains, de ce moment si douloureux où nous avons dû admettre et confesser notre échec, le plus grand bien est sorti alors. Découvrir un sauveur d'amour et de grâce, qui nous relève et nous aime, qui nous redonne et la vue et la vie, et nous appelle à son service. Il n'est pas possible d'être agréable à Dieu, pas possible de le servir si l'on n'est pas passé par cette expérience que nous appelons la conversion et qui commence par la mesure écrasante de l'échec de nos vies sans Dieu. Ô bienheureuse prise de conscience d'un échec tragique qui nous permet d'accéder à la communion avec l'Éternel. Nous retournerons dans l'Ancien Testament pour une lecture, cette fois-ci dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 26. Au chapitre 11, excusez-moi. De Samuel, chapitre 11. Verset 26. La femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle accomplit les rites funèbres sur son époux. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. L'Éternel envoya Nathan vers David. Nathan vint à lui et lui dit, « Il y avait dans une même ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait du petit et du gros bétail, en très grande quantité. Le pauvre n'avait rien du tout, sinon une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses fils. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein. Elle était pour lui comme une fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche ménagea son petit ou son gros bétail pour préparer un repas au voyageur arrivé chez lui. Il prit la brebis du pauvre et la prêta pour l'homme arrivé chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. » Et il rendra au quadruple la brebis pour avoir commis cette action et pour avoir agi sans ménagement. Alors Nathan dit à David, « Tu es cet homme-là. » David, le bien-aimé de Dieu, l'homme fidèle par excellence, s'égare et tombe lourdement et fâcheusement dans des actes inimaginables. Lui choisi par Dieu, lui appelé à monter sur le trône, humble berger, lui comblé, lui qui jouit de la communion de Dieu, qui est en mesure de profiter de tant de bonnes choses, que Dieu a protégé, lui, vole la femme de l'un de ses officiers dévoués, expose celui-ci pour qu'il meure à la guerre, se satisfait de ce que les apparences sont sauves pour continuer à profiter de ce qu'il s'est injustement acquis. Incroyable comportement. David, l'auteur de tant de psaumes, cet homme de foi, de courage, de fidélité. Et il faut que Nathan, envoyé par Dieu, lui raconte cette petite histoire pour que son péché soit dévoilé et lui apparaisse. Et pour qu'il s'écroule et se repente, prenne conscience que tout tourne à l'échec pour lui. Quel tragique enseignement dont nous devons nous servir. Si David a pu ainsi pécher, qui peut être sûr de lui-même ? Qui peut dire, moi je ne ferai jamais cela. Nous voudrions croire que les péchés les plus grossiers, nous les éviterons toujours. Puisse Dieu en effet nous en préserver, mais par nous-mêmes. Tout homme, je le crains, est capable du pire. Si nous laissons Dieu de côté, fût-ce un temps seulement, si nous mettons en premier nos désirs, notre orgueil, notre volonté, tout peut arriver. Nos chutes alors ne seront pas forcément tout aussi spectaculaire que celle de David, mais peut-être aussi grave en fait, car la conséquence du péché, de tout péché, c'est la mort. Mon péché, ma faute, peut-être même ce qui m'apparaît comme minime, et nous pouvons penser à cette expression terrible, ridicule et terrible, un péché mignon. Face à la sainteté de Dieu, tout péché est terrible. Tout péché a rendu nécessaire la mort sacrificielle du Christ. Oui, gravité extrême du péché. Nous qui sommes chrétiens, des créatures nouvelles, animées par l'Esprit de Dieu, gardons-nous du péché. Gardons-nous de ces terribles chutes. Saisissons-nous de toutes les armes de la foi pour ne pas connaître ces échecs. Que Dieu nous pardonne, car il est grâce permanente pour ses enfants, mais qui sont autant de souffrances pour lui et d'occasion de se réjouir et d'espérer pour l'adversaire, Satan. Sombre échec du péché, de la faute, de la désobéissance à Dieu. Expérience qu'hélas, nous connaissons. Moment de douleur, de découragement, lorsque nous reprenons conscience de nos actes, de nos pensées, échec de nos espoirs et de nos efforts. Que Dieu nous aide, nous permette de progresser, de connaître de moins en moins souvent, de moins en moins longtemps, le goût amer des échecs de nos vies devant le Seigneur. Et qu'il nous aide à l'inverse, à goûter pleinement à la douceur de son pardon, de sa grâce et de son amour. Évangile de Luc, au chapitre 22. Luc 22, verset 33. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié trois fois de me connaître. Verset 54 du même chapitre. Après s'être emparé de Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et s'assirent. Pierre s'assit au milieu d'eux. Une servante qui le vit assis devant le feu le fixa et dit, cet homme était aussi avec lui. Mais il le nia en disant, femme, je ne le connais pas. Peu après, un autre le vit et dit, tu es aussi de ces gens-là. Et Pierre dit à l'homme, je n'en suis pas. Après un intervalle d'environ une heure, un autre encore insista, certainement, cet homme était aussi avec lui car il est galiléen. Pierre répondit, toi, je ne sais pas ce que tu veux dire. Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur se retourna et regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite, « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras trois fois. » Il sortit et dehors il pleura amèrement. Échec douloureux pour Pierre. Son amour, véritable pourtant, pour son Seigneur, n'est-il donc pas plus fort que cela ? Lui qui était sûr de suivre Jésus jusqu'à la mort, s'il le fallait, vient de le renier trois fois après l'avoir abandonné en s'enfuyant. Certes, les circonstances sont dramatiques. Jésus est arrêté. Il se laisse faire. Il semble que tout soit perdu. L'espérance si belle dans celui que Pierre a reconnu comme le Fils de Dieu était-elle illusoire ? Je suis tenté de croire que Pierre n'a pas perdu sa foi dans le Christ. Mais ses forces, dont il se glorifiait inconsciemment, ses forces n'ont pas tenu. Pierre a eu peur. Transitoirement, il a préféré cette vie à son espérance en son Seigneur. Lorsque Jésus le regarde, Pierre se rend compte de cet échec, si douloureux maintenant. Oui, il a abandonné et renié son Seigneur bien-aimé. Pauvre Pierre. Pauvre Pierre, n'est-ce pas ? Et nous le comprenons. N'est-ce pas aussi notre triste expérience ? Nous trahissons parfois. Nous abandonnons notre Seigneur par peur, par faiblesse, par lassitude. Il nous arrive aussi de dire sous une forme ou sous une autre. Je ne le connais pas. Je ne suis pas de ceux qui le suivent. Il nous arrive de nous taire quand nous devrions parler et rendre compte de notre foi. Qui de nous n'a connu cette tristesse dans l'échec où nous sommes de témoins, de disciples? Et cette tristesse de décevoir celui qui nous a tant aimés. Mais le chrétien, c'est aussi celui qui connaît parfois cet échec dans sa vie. Être inférieur à ses espoirs, à ses désirs d'un service et d'une fidélité agréable au Seigneur. Dans notre vie de disciple, nous avons encore besoin de la grâce de Dieu. Nous avons encore besoin que Christ nous pardonne, nous relève, ne nous laisse pas dans notre douloureux échec. Et dans son amour, ne nous dit-il pas, comme il le fit à Pierre, tendrement, ces quelques mots, « M'aimes-tu ? M'aimes-tu bien ?» Oui, il nous permet toujours de lui dire, humble, timide, nous relevant tout juste de la déception et de la tristesse de nos échecs. « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Et c'est l'effet de sa grâce qui nous permet de dire cela. Évangile de Marc, au chapitre 15, verset 22. Ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui se traduit « lieu du crâne ». Ils lui donnèrent à boire un vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort ce que chacun emportera. C'était la troisième heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots « le roi des Juifs ». Ils crucifièrent avec lui deux brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les passants blasphémaient contre lui, secouaient la tête en disant « Hé, toi qui détruis le temple et le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix !» Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. » Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. À la sixième heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la neuvième heure. Et à la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui se traduit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là l'entendirent et disaient « Voyez, il appelle Élie. » Et l'un d'eux courut remplir de vinaigre une éponge, la fixa à un roseau et lui donna à boire en disant « Laissez, voyons si Élie viendra le descendre. » Mais Jésus jeta un grand cri. Puis il expira. Jésus est arrêté. Jésus est abandonné de ses disciples. Tous se sauvent ou le renient. Jésus est jugé et condamné. Jésus est abandonné par la foule qui, quelques jours plus tôt, l'exaltait et le glorifiait. Jésus est maltraité. Jésus est crucifié. Jésus est méprisé, insulté, moqué. Jésus crie à son Père, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus meurt sur la croix. L'espoir d'Israël, le Messie annoncé, le prédicateur du salut, l'homme au miracle, le saint et le juste, meurt sur la croix, abandonné de tous. Est-il de plus grand, de plus terrible, de plus sombre échec que celui-ci ? Les hommes ont rejeté le Seigneur et le Sauveur. Personne n'a cru assez pour le suivre. Le peuple a rejeté le Messie attendu. La lumière à lui, mais les ténèbres l'ont englouti. Quel échec ! L'échec le plus terrible qui puisse être, le plus terrible qui soit survenu dans l'histoire. Mais échec de Jésus ? Ou échec de l'homme, de l'humanité, de Satan ? C'est librement que Jésus, connaissant ce vers quoi il allait, a accepté de livrer sa vie en sacrifice. Il a laissé les choses ainsi, vers son arrestation. Il savait que ses disciples l'abandonneraient. Il savait qu'il serait condamné et il n'a pas ouvert la bouche pour sa défense. Il a souffert sans réagir les blessures, les coups, les moqueries des soldats, de la foule. Il s'est laissé crucifier. Il a crié vers son Père, ce cri d'horreur, d'abandon. Mais c'est dans la confiance que, mourant, il a remis son esprit dans les mains de son père, dont il connaissait l'amour absolu pour lui. Est-il en échec, celui qui se donne totalement, librement, par amour pour les hommes? Est-il en échec, ce Messie qui s'humilie, qui prend les péchés des hommes sur lui, lui que nul n'a pu accuser de fraude? Est-il en échec, celui qui a fait totalement et toujours la volonté du Père? N'est-ce pas un vainqueur qui s'offre ainsi? N'est-ce pas le Fils déjà glorieux et bientôt glorifié que les hommes ont cru en échec, cloué sur la croix? Pensons que chaque étape de la vie de Christ, et en particulier ces dernières étapes si douloureuses et en apparence si infructueuses, si terriblement décevantes pour les disciples eux-mêmes, ces étapes ont été celles de la plus grande œuvre qui ait été accomplie sur cette terre. L'œuvre de sacrifice du Fils de Dieu, l'œuvre de l'amour le plus grand qui soit. À chaque étape de cette marche vers sa mort, Jésus a accepté l'échec pour que nous puissions être tirés, nous, de nos échecs, de notre mort. Mais l'échec du Christ, c'était pour lui de renoncer à sa mission, sa victoire, son triomphe et notre victoire avec lui, c'est qu'il ait accepté de tout supporter, de vivre cette obéissance totale au prix de sa souffrance, au prix du jugement, au prix de l'abandon même de son Père, même courtement. Mais un tel abandon est-il moindre même s'il est court? Au prix de sa mort. Mais ô mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Il n'est pas resté dans la tombe, celui que les hommes ont crucifié, celui que nous avons nous-mêmes crucifié par nos péchés. Il n'est plus sur cette croix. Il n'est plus non plus dans la tombe. Il est ressuscité, le saint et le juste, que la mort n'a pu retenir. Et il est maintenant à la droite même de Dieu, le Sauveur glorieux, ce Fils de l'homme qui a triomphé de la mort, du péché, de l'adversaire. C'est le grand triomphateur qui est assis sur le trône et qui revient bientôt sur la terre pour juger les hommes et imposer son règne de gloire. Des échecs, quelques-uns parmi tant d'autres évocables dans la Bible et ailleurs. L'échec d'Aïtophel, l'échec de l'homme qui vit pour lui-même, qui ignore Dieu et les hommes, qui réussit puis un jour rencontre l'échec et n'a rien. L'échec de Saül, qui n'apprend pas à connaître Dieu, bien qu'il en ait eu quelques lumières. Saül, pour lequel Dieu sera toujours le Dieu de Samuel, jamais le sien. Saül qui n'apprend pas, qui n'obéit pas et qui n'aime pas vraiment son Dieu. L'échec de Saul de Tarse, qui découvre écrasé la vanité, l'inutilité de ses efforts religieux. Tout cela n'est que de la boue, que de l'ordure. Il n'y a rien que l'homme puisse présenter à Dieu et qui lui soit agréable. L'échec de David, l'homme qui aime Dieu et le connaît et que Dieu a choisi, mais qui oublie d'où il vient, qui néglige la fidélité à son Dieu et tombe dans le péché le plus abominable, le plus lamentable. L'échec de Pierre, l'ami du Seigneur, plein de bonnes intentions, mais qui ne se connaît pas lui-même et se confie dans ses propres qualités, dans sa fidélité, dans sa foi, au lieu de se confier seulement dans son Seigneur. L'échec d'autres hommes encore, bien sûr. L'échec d'Élie, découragé, déprimé, dans la solitude. Autant mourir. L'échec de Job, qui a tout perdu de possibilités de bonheur. L'échec de Jérémie dans sa citerne. L'échec de Jacob, l'homme qui fuit, l'homme qui ment pour s'en sortir. L'échec qui est le nôtre aussi. Les échecs dans nos vies, échecs de nos ambitions, de nos espoirs, de nos bonheurs et de nos joies, trop vite évanouis. l'échec de notre fidélité imparfaite, l'échec de notre religiosité insupportable aux yeux de Dieu. Je voyais dimanche dernier que sur le comptoir de librairie, il y a un livre qui s'appelle, je crois, « Dieu et les athées contre la religion ». L'échec de la religion. L'échec à cause de notre faiblesse. L'échec à cause de notre péché. Hélas, oui, tous n'avons-nous pas connu l'échec. Ne reste-t-il pas encore une présence si proche dans nos vies, ces échecs des hommes, ces échecs qui sont les nôtres et marquent nos existences? Un seul peut les effacer, les lever. C'est celui-là, le Christ, qui atteint la victoire et la gloire dans l'effacement, dans l'humilité, dans l'acceptation consciente, volontaire, d'échecs humains et d'une mort, miracle d'amour et de don. Oui, Christ, ta mort nous délivre enfin, me relève de mes échecs. Oui, Christ, ta victoire sur la mort me donne la vie, efface mes échecs, m'appelle à partager ta gloire pour l'éternité, dans cette cité nouvelle où nous serons ensemble à jamais. Puissions-nous un jour tous vivre ces choses qui nous sont promises. Alors, nos peurs, nos fautes, nos échecs ne seront même plus des souvenirs douloureux. Et pour terminer, une lecture dans le livre de l'Apocalypse. Lecture heureuse, plusieurs. Les lectures que nous avons faites étaient plutôt sombres, mais celle-là ne l'est pas. Apocalypse 21, verset 1. « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu.